Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2. Dans ma crainte que le plaisir trouvé dans cette promenade solitaire n'affaiblit en moi le souvenir de ma grand-mère, je cherchais à le raviver en pensant à telle grande souffrance morale qu'elle avait eue. À mon appel, cette souffrance essayait de se construire dans mon cœur. Elle y élançait ses piliers immenses. Mais mon cœur, sans doute, était trop petit pour elle. Je n'avais la force de porter une douleur si grande. Mon attention se dérobait au moment où elle se reformait tout entière. Et ses arches s'effondraient avant de s'être rejointes. Comme avant d'avoir parfait leur voûte, s'écroulent les vagues. Cependant, rien que par mes rêves, quand j'étais endormie, j'aurais pu apprendre que mon chagrin de la mort de ma grand-mère diminuait, car elle y apparaissait moins opprimée par l'idée que je me faisais de son néant. Je la voyais toujours malade, mais en voie de se rétablir. Je la trouvais mieux. Et si elle faisait allusion à ce qu'elle avait souffert, je lui fermais la bouche avec mes baisers, et je l'assurais qu'elle était maintenant guérie pour toujours. J'aurais voulu faire constater aux sceptiques que la mort est vraiment une maladie dont on revient. Seulement, je ne trouvais plus chez ma grand-mère la riche spontanéité d'autrefois. Ses paroles n'étaient qu'une réponse affaiblie, docile, presque un simple écho de mes paroles. Elle n'était plus que le reflet de ma propre pensée. Incapable comme je l'étais encore d'éprouver à nouveau un désir physique, Albertine recommençait cependant à m'inspirer comme un désir de bonheur. Certains rêves de tendresse partagée, toujours flottants en nous, s'allient volontiers par une sorte d'affinité au souvenir, à condition que celui-ci soit déjà devenu un peu vague, d'une femme avec qui nous avons eu du plaisir. Ce sentiment me rappelait des aspects du visage d'Albertine, plus doux, moins gai, assez différent de ceux que m'eût évoqué le désir physique. Et comme il était aussi moins pressant que ne l'était ce dernier, j'en eusse volontiers ajourné la réalisation à l'hiver suivant, sans chercher à revoir Albertine à Balbec avant son départ. Mais, même au milieu d'un chagrin encore vif, le désir physique renaît. De mon lit, où on me faisait rester longtemps tous les jours à me reposer, je souhaitais qu'Albertine vînt recommencer nos jeux d'autrefois. Ne voit-on pas, dans la chambre même où ils ont perdu un enfant, des époux, bientôt de nouveau entrelacés, donner un frère au petit mort? J'essayais de me distraire de ce désir en allant jusqu'à la fenêtre regarder la mer de ce jour-là. Comme la première année, les mères, d'un jour à l'autre, étaient rarement les mêmes. Mais d'ailleurs, elles ne ressemblaient guère à celles de cette première année, soit parce que maintenant c'était le printemps, avec ses orages, soit parce que, même si j'y étais venue à la même date que la première fois, des temps différents, plus changeants, auraient pu déconseiller cette côte à certaines mères indolentes, vaporeuses et fragiles, que j'avais vues pendant des jours ardents. Dormir sur la plage en soulevant imperceptiblement leur sein bleuâtre d'une molle palpitation, soit surtout parce que mes yeux, instruits par Elstir à retenir précisément les éléments que j'écartais volontairement jadis, contemplaient longuement ce que la première année ils ne savaient pas voir. Cette opposition qui alors me frappait tant entre les promenades agrestes que je faisais avec Madame de Villeparisis et ce voisinage fluide, inaccessible et mythologique, de l'océan éternel, n'existait plus pour moi. Et certains jours, la mer me semblait, au contraire, maintenant presque rurale elle-même. Les jours, assez rares, de vrai beau temps, la chaleur avait tracé sur les eaux, comme à travers champs, une route poussiéreuse et blanche, derrière laquelle la fine pointe d'un bateau de pêche dépassait, comme un clocher villageois. Un remorqueur, dont on ne voyait que la cheminée, fumait au loin comme une usine écartée, tandis que, seul à l'horizon, un carré blanc et bombé, peint sans doute par une voile, mais qui semblait compact et comme calcaire, faisait penser à l'angle ensoleillé de quelques bâtiments isolés, hôpital ou école. Et les nuages et le vent, les jours où ils s'en ajoutaient au soleil, parachevaient, sinon l'erreur du jugement, du moins l'illusion du premier regard, la suggestion qu'il éveille dans l'imagination. Car l'alternance d'espaces de couleurs nettement tranchées, comme celle qui résulte, dans la campagne, de la contiguïté de cultures différentes, les inégalités âpres, jaunes et comme boueuses de la surface marine, les levées, les talus qui dérobaient à la vue une barque où une équipe d'agiles matelots semblait moissonner, tout cela, par les jours orageux, faisait de l'océan quelque chose d'aussi varié, d'aussi consistant, d'aussi accidenté, d'aussi populeux, d'aussi civilisé que la terre carrossable sur laquelle j'allais autrefois et ne devais pas tarder à faire des promenades. Et une fois, ne pouvant plus résister à mon désir, au lieu de me recoucher, je m'habillai et partis chercher Albertine à Incarville. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Deauville, où j'irai faire à Féterne une visite à Madame de Cambremer, et à la Raspelière une visite à Madame Verdurin. Albertine m'attendrait pendant ce temps-là sur la plage, et nous reviendrions ensemble dans la nuit. J'allais prendre le petit chemin de fer d'intérêt local dont j'avais, par Albertine et ses amis, appris autrefois tous les surnoms dans la région, où on l'appelait tantôt le tortillard à cause de ses innombrables détours, le taco parce qu'il n'avançait pas, le transatlantique à cause d'une effroyable sirène qu'il possédait pour que se garassent les passants, le Decauville et le Funi, bien que ce ne fût nullement un funiculaire, mais parce qu'il grimpait sur la falaise, ni même à proprement parler un Decauville, mais parce qu'il avait une voix de 60, le B.A.G., parce qu'il allait de Balbec à Gralvast, en passant par Angerville, le tram et le TSN, parce qu'il faisait partie de la ligne des tramways du sud de la Normandie. Je m'installai dans un wagon où j'étais seul. Il faisait un soleil splendide, on étouffait. Je baissai le store bleu qui ne laissa passer qu'une raie de soleil. Mais aussitôt, je vis ma grand-mère, telle qu'elle était assise dans le train à notre départ de Paris à Balbec, quand, dans la souffrance de me voir prendre de la bière, elle avait préféré ne pas regarder, fermer les yeux et faire semblant de dormir. Moi qui ne pouvais supporter autrefois la souffrance qu'elle avait quand mon grand-père prenait du cognac, je lui avais infligé celle, non pas même seulement de me voir prendre, sur l'invitation d'un autre, une boisson qu'elle croyait funeste pour moi, mais je l'avais forcée à me laisser libre de m'engorger à ma guise. Bien plus, par mes colères, mes crises d'étouffement, je l'avais forcée à m'y aider, à me le conseiller, dans une résignation suprême dont j'avais devant ma mémoire l'image muette, désespérée, aux yeux clos pour ne pas voir. Un tel souvenir, comme un coup de baguette, m'avait de nouveau rendu l'âme que j'étais en train de perdre depuis quelque temps. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de Rosemonde quand mes lèvres tout entières étaient parcourues seulement par le désir désespéré d'embrasser une morte? Qu'aurais-je pu dire aux Cambremer et aux Verdurin quand mon cœur battait si fort parce que s'y reformait à tout moment la douleur que ma grand-mère avait soufferte? Je ne pus rester dans ce wagon. Dès que le train s'arrêta à Menneville-la-Teinturière, renonçant à mes projets, je descendis, je rejoignis la falaise et j'en suivis les chemins sinueux. Menneville avait acquis depuis quelque temps une importance considérable et une réputation particulière, parce qu'un directeur de nombreux casinos, marchands de bien-être, avait fait construire, non loin de là, avec un luxe de mauvais goût capable de rivaliser avec celui d'un palace, un établissement, sur lequel nous reviendrons, et qui était, à franc parler, la première maison publique pour gens chics qu'on eut l'idée de construire sur les côtes de France. C'était la seule. Chaque port a bien la sienne, mais bonne seulement pour les marins et pour les amateurs de pittoresque que cela amuse de voir, tout près de l'église immémoriale, la patronne, presque aussi vieille, vénérable et moussue, se tenir devant sa porte mal famée en attendant le retour des bateaux de pêche. M'écartant de l'éblouissante maison de plaisir, insolemment dressée là, malgré les protestations des familles inutilement adressées au maire, je rejoignis la falaise et j'en suivis les chemins sinueux dans la direction de Balbec. J'entendis, sans y répondre, l'appel des aubépines. Voisine moins cossue des fleurs de pommier, elle les trouvait bien lourdes, tout en reconnaissant le teint frais qu'ont les filles, aux pétales rosés, de ces gros fabricants de cidre. Elle savait que, moins richement dotées, on les recherchait cependant davantage, et qu'il leur suffisait pour plaire d'une blancheur chiffonnée. Quand je rentrai, le concierge de l'hôtel me remit une lettre de deuil où faisaient part le marquis et la marquise de Gonneville, le vicomte et la vicomtesse d'Amfreville, le comte et la comtesse de Berneville, le marquis et la marquise de Grincourt, le comte d'Amenoncourt, la comtesse de Maineville, le comte et la comtesse de Franquetot, la comtesse de Chaverny née d'Aigleville, et de laquelle je compris enfin pourquoi elle m'était envoyée, quand je reconnus les noms de la marquise de Cambremer, née du Ménil-la-Guichard, du marquis et de la marquise de Cambremer, et que je vis que la morte, une cousine des Cambremer, s'appelait Éléonore Euphrasie Humbertine de Cambremer, comtesse de Criquetot. Dans toute l'étendue de cette famille provinciale, dont le dénombrement remplissait des lignes fines et serrées, pas un bourgeois, et d'ailleurs pas un titre connu, mais tout le banc et l'arrière-banc des nobles de la région qui faisaient chanter leurs noms, ceux de tous les lieux intéressants du pays, aux joyeuses finales en ville, en cour, parfois plus sourde, en tonne. Habillés des tuiles de leur château ou du crépi de leur église, la tête branlant, dépassant à peine la voûte ou le corps de logis, et seulement pour se coiffer du lanternon normand ou des colombages du toit en poivrière, ils avaient l'air d'avoir sonné le rassemblement de tous les jolis villages échelonnés ou dispersés à 50 lieues à la ronde, et de les avoir disposés en formation serrée, sans une lacune, sans un intrus, dans le damier compact et rectangulaire de l'aristocratique lettre bordée de noir. Ma mère était remontée dans sa chambre, méditant cette phrase de madame de Sévigné. « Je ne vois aucun de ceux qui veulent me divertir de vous. En paroles couvertes, c'est qu'ils veulent m'empêcher de penser à vous, et cela m'offense. » Parce que le premier président lui avait dit qu'elle devrait se distraire. À moi, elle chuchota « C'est la princesse de Parme. » Ma peur se dissipa en voyant que la femme que me montrait le magistrat n'avait aucun rapport avec son Altesse royale. Mais comme elle avait fait retenir une chambre pour passer la nuit en revenant de chez madame de Luxembourg, la nouvelle eut pour effet sur beaucoup de leur faire prendre toute nouvelle dame arrivée pour la princesse de Parme, et pour moi de me faire monter m'enfermer dans mon grenier. Je n'aurais pas voulu y rester seule. Il était à peine 4 heures. Je demandai à Françoise d'aller chercher Albertine pour qu'elle vînt passer la fin de l'après-midi avec moi. Je crois que je mentirais en disant que commença déjà la douloureuse et perpétuelle méfiance que devait m'inspirer Albertine. À plus forte raison, le caractère particulier, surtout gomoréen, que devait revêtir cette méfiance. Certes, dès ce jour-là, mais ce n'était pas le premier, mon attente fut un peu anxieuse. Françoise, une fois partie, resta si longtemps que je commençais à désespérer. Je n'avais pas allumé de lampe. Il ne faisait plus guère jour. Le vent faisait claquer le drapeau du casino. Et, plus débile encore dans le silence de la grève sur laquelle la mer montait, et comme une voix qui aurait traduit et accru le vague et nervant de cette heure inquiète et fausse, un petit orgue de barbarie, arrêté devant l'hôtel, jouait des valses viennoises. Enfin, Françoise arriva, mais seule. Je suis été aussi vite que j'ai pu, mais elle ne voulait pas venir, à cause qu'elle ne se trouvait pas assez coiffée. Si elle n'est pas restée une heure d'horloge à se pommader, elle n'est pas restée 5 minutes. Ça va être une vraie parfumerie ici. Elle vient. Elle est restée en arrière pour s'arranger devant la glace. Je croyais la trouver là. Le temps fut long encore avant qu'Albertine arrivât. Mais la gaieté, la gentillesse qu'elle eut cette fois, dissipèrent ma tristesse. Elle m'annonça, contrairement à ce qu'elle avait dit l'autre jour, qu'elle resterait la saison entière, et me demanda si nous ne pourrions pas, comme la première année, nous voir tous les jours. Je lui dis qu'en ce moment j'étais trop triste, et que je la ferais plutôt chercher de temps en temps, au dernier moment, comme à Paris. Si jamais vous vous sentez de la peine, ou que le cœur vous en dise, n'hésitez pas, me dit-elle. Faites-moi chercher, je viendrai en vitesse. Et si vous ne craignez pas que cela fasse scandale dans l'hôtel, je resterai aussi longtemps que vous voudrez. Françoise avait, en la ramenant, eu l'air heureuse, comme chaque fois qu'elle avait pris une peine pour moi et avait réussi à me faire plaisir. Mais Albertine elle-même n'était pour rien dans cette joie, et dès le lendemain, Françoise devait me dire ses paroles profondes. « Monsieur ne devrait pas voir cette demoiselle. Je vois bien le genre de caractère qu'elle a. Elle vous fera des chagrins. » En reconduisant Albertine, je vis par la salle à manger éclairée la princesse de Parme. Je ne fis que la regarder en m'arrangeant à n'être pas vue. Mais j'avoue que je trouvais une certaine grandeur dans la royale politesse qui m'avait fait sourire chez les Guermantes. C'est un principe que les souverains sont partout chez eux, et le protocole le traduit en usage mort et sans valeur, comme celui qui veut que le maître de la maison tienne à la main son chapeau dans sa propre demeure pour montrer qu'il n'est plus chez lui, mais chez le prince. Or, cette idée, la princesse de Parme ne se la formulait peut-être pas, mais elle en était tellement imbue que tous ses actes, spontanément inventée pour les circonstances, la traduisait. Quand elle se leva de table, elle remit un gros pourboire à Aimé, comme s'il avait été là uniquement pour elle, et si elle récompensait, en quittant un château, un maître d'hôtel affecté à son service. Elle ne se contenta d'ailleurs pas du pourboire, mais avec un gracieux sourire, lui adressa quelques paroles aimables et flatteuses, dont sa mère l'avait muni. Un peu plus, elle lui aurait dit qu'autant l'hôtel était bien tenu, autant était florissante la Normandie, et qu'à tous les pays du monde, elle préférait la France. Une autre pièce glissa des mains de la princesse pour le sommelier, qu'elle avait fait appeler, et à qui elle tint à exprimer sa satisfaction, comme un général qui vient de passer une revue. Le lift était, à ce moment, venu lui donner une réponse. Il eut aussi un mot, un sourire et un pourboire, tout cela mêlé de paroles encourageantes et humbles, destinées à leur prouver qu'elle n'était pas plus que l'un d'eux. Comme Aimé, le sommelier, le lift et les autres crurent qu'il serait impoli de ne pas sourire jusqu'aux oreilles à une personne qui leur souriait, elle fut bientôt entourée d'un groupe de domestiques avec qui elle causa bienveillamment. Ces façons étant inaccoutumées dans les palaces, les personnes qui passaient sur la place, ignorant son nom, crurent qu'ils voyaient une habituée de Balbec, qui, à cause d'une extraction médiocre ou dans un intérêt professionnel, c'était peut-être la femme d'un placier en Champagne, était moins différente de la domesticité que les clients vraiment chics. Pour moi, je pensais au palais de Parme, aux conseils moitié religieux, moitié politiques donnés à cette princesse, laquelle agissait avec le peuple comme si elle avait dû se le concilier pour régner un jour, bien plus, comme si elle régnait déjà. Je remontai dans ma chambre, mais je n'y étais pas seule. J'entendais quelqu'un jouer avec moelleux des morceaux de Schumann. Certes, il arrive que les gens, même ceux que nous aimons le mieux, se saturent de la tristesse ou de l'agacement qui émane de nous. Il y a pourtant quelque chose qui est capable d'un pouvoir d'exaspérer ou n'atteindra jamais une personne. C'est un piano. Albertine m'avait fait prendre en note les dates où elle devait s'absenter et aller chez des amis pour quelques jours, et m'avait fait instruire aussi leur adresse pour si j'avais besoin d'elle un de ces jours, car aucun n'habitait bien loin. Cela fit que, pour la trouver, de jeune fille en jeune fille, se nouèrent tout naturellement autour d'elle des liens de fleurs. J'ose avouer que beaucoup de ses amis, je ne l'aimais pas encore, me donnèrent, sur une plage ou une autre, des instants de plaisir. Ces jeunes camarades bienveillantes ne me semblaient pas très nombreuses, mais dernièrement j'y ai repensé, leurs noms me sont revenus. Je comptais que, dans cette seule saison, 12 me donnèrent leur frêle faveur. Un nom me revint ensuite, ce qui fit 13. J'eus alors comme une cruauté enfantine de rester sur ce nombre. Hélas, je songeais que j'avais oublié la première, Albertine, qui n'était plus et qui fit la 14e. J'avais, pour reprendre le fil du récit, inscrit les noms et les adresses des jeunes filles chez qui je la trouverais tel jour où elle ne serait pas à Incarville. Mais de ces jours-là, j'avais pensé que je profiterais plutôt pour aller chez Madame Verdurin. D'ailleurs, nos désirs pour différentes femmes n'ont pas toujours la même force. Tel soir, nous ne pouvons nous passer d'une qui, après cela, pendant un mois ou deux, ne nous troublerait guère. Et puis, les causes d'alternance, que ce n'est pas le lieu d'étudier ici, après les grandes fatigues charnelles, font que la femme dont l'image hante notre sénilité momentanée est une femme qu'on ne ferait presque que baiser sur le front. Quant à Albertine, je la voyais rarement et seulement les soirs, fort espacés, où je ne pouvais me passer d'elle. Si un tel désir me saisissait quand elle était trop loin de Balbec pour que Françoise pût aller jusque-là, j'envoyais le lift à Aigreville, à La Sogne, à Saint-Frichou, en lui demandant de terminer son travail un peu plus tôt. Il entrait dans ma chambre, mais en laissait la porte ouverte, car bien qu'il fît avec conscience son « boulot », lequel était fort dur, consistant dès 5 heures du matin en nombreux nettoyages, il ne pouvait se résoudre à l'effort de fermer une porte. Et si on lui faisait remarquer qu'elle était ouverte, il revenait en arrière et, aboutissant à son maximum d'effort, la poussait légèrement. Avec l'orgueil démocratique qui le caractérisait et auquel n'atteignent pas dans les carrières libérales les membres de professions un peu nombreuses, avocats, médecins, hommes de lettres, appelant seulement un autre avocat, homme de lettres ou médecin, mon confrère, lui, usant avec raison d'un terme réservé au corps restreint, comme les académies par exemple, il me disait, en parlant d'un chasseur qui était lift un jour ou deux, « Je vais voir à me faire remplacer par mon collègue. » Cet orgueil ne l'empêchait pas, dans le but d'améliorer ce qu'il appelait son traitement, d'accepter pour ses courses des rémunérations, qu'il avait fait prendre en horreur à Françoise. « Oui, la première fois qu'on le voit, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il y a des jours où il est poli comme une porte de prison. » Tout ça, c'est des tire-sous. » Cette catégorie où elle avait si souvent fait figurer Eulalie, et où, hélas, pour tous les malheurs que cela devait un jour amener, elle rangeait déjà Albertine, parce qu'elle me voyait souvent demander à maman, pour mon amie peu fortunée, de menus objets, des colis fichés, ce que Françoise trouvait inexcusable, parce que Madame Bontemps n'avait qu'une bonne à tout faire. Bien vite, le lift, ayant retiré ce que j'eusse appelé sa livrée et ce qu'il nommait sa tunique, apparaissait en chapeau de paille avec une canne, soignant sa démarche et le corps redressé, car sa mère lui avait recommandé de ne jamais prendre le genre « ouvrier » ou « chasseur ». De même que, grâce au livre, la science l'est à un ouvrier qui n'est plus ouvrier quand il a fini son travail. De même, grâce au canotier et à la paire de gants, l'élégance devenait accessible au lift, qui, ayant cessé pour la soirée de faire monter les clients, se croyait comme un jeune chirurgien qui a retiré sa blouse, ou le maréchal des logis Saint-Loup sans uniforme, devenu un parfait homme du monde. Il n'était pas d'ailleurs sans ambition, ni talent non plus, pour manipuler sa cage et ne pas vous arrêter entre deux étages. Mais son langage était défectueux. Je croyais à son ambition parce qu'il disait, en parlant du concierge, duquel il dépendait, « Mon concierge », sur le même ton qu'un homme possédant à Paris ce que le chasseur eût appelé « un hôtel particulier », eût parlé de son portier. Quant au langage du liftier, il est curieux que quelqu'un qui entendait 50 fois par jour un client appeler « ascenseur » ne dit jamais lui-même « qu'ascenseur ». Certaines choses étaient extrêmement agaçantes chez ce liftier. Quoique je lui eusse dit, il m'interrompait par une locution « vous pensez » ou « pensez » qui semblait signifier, ou bien que ma remarque était d'une telle évidence que tout le monde l'eût trouvée, ou bien reporter sur lui le mérite, comme si c'était lui qui attirait mon attention là-dessus. « Vous pensez » ou « pensez » exclamé avec la plus grande énergie, revenait toutes les 2 minutes dans sa bouche, pour des choses dont il ne se fut jamais avisé, ce qui méritait tant que je me mettais aussitôt à dire le contraire pour lui montrer qu'il n'y comprenait rien. Mais à ma seconde assertion, bien qu'elle fût inconciliable avec la première, il ne répondait pas moins « Vous pensez, pensez », comme si ces mots étaient inévitables. Je lui pardonnais difficilement aussi qu'il employât certains termes de son métier et qui eussent, à cause de cela, été parfaitement convenables au propre, seulement dans le sens figuré, ce qui leur donnait une intention spirituelle assez bébête, par exemple le verbe « pédaler ». Jamais il n'en usait quand il avait fait une course à bicyclette. Mais si, à pied, il s'était dépêché pour être à l'heure, pour signifier qu'il avait marché vite, il disait « Vous pensez si on a pédalé ?» Le liftier était plutôt petit, mal bâti et assez laid. Cela n'empêchait pas que chaque fois qu'on lui parlait d'un jeune homme de haute taille, élancé et fine, il disait « Ah oui, je sais, un qui est juste de ma grandeur. » Et un jour que j'attendais une réponse de lui, comme on avait monté l'escalier, au bruit des pas, j'avais par impatience ouvert la porte de ma chambre et j'avais vu un chasseur, beau comme Endymion, les traits incroyablement parfaits, qui venait pour une dame que je ne connaissais pas. Quand le liftier était rentré, en lui disant avec quelle impatience j'avais attendu sa réponse, je lui avais raconté que j'avais cru qu'il montait, mais que c'était un chasseur de l'hôtel de Normandie. « Ah oui, je sais lequel, » me dit-il. « Il n'y en a qu'un, un garçon de ma taille. Comme figure aussi, il me ressemble tellement qu'on pourrait nous prendre l'un pour l'autre. On dirait tout à fait mon frangin. » Enfin, il voulait paraître avoir tout compris dès la première seconde, ce qui faisait que, dès qu'on lui recommandait quelque chose, il disait « Oui, 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 je comprends très bien. » Avec une netteté et un ton intelligent qui me firent quelque temps illusion. Mais les personnes, au fur et à mesure qu'on les connaît, sont comme un métal plongé dans un mélange altérant, et on les voit peu à peu perdre leurs qualités, comme parfois leurs défauts. Avant de lui faire mes recommandations, je vis qu'il avait laissé la porte ouverte. Je le lui fis remarquer, J'avais peur qu'on ne nous entendît. Il condescendit à mon désir et revint, ayant diminué l'ouverture. « C'est pour vous faire plaisir, mais il n'y a plus personne à l'étage que nous deux. » Aussitôt, j'entendis passer une, puis deux, puis trois personnes. Cela m'agaçait à cause de l'indiscrétion possible, mais surtout parce que je voyais que cela ne l'étonnait nullement et que c'était un va-et-vient normal. « Oui, c'est la femme de chambre d'à côté qui va chercher ses affaires. Oh, c'est sans importance. C'est le sommelier qui remonte ses clés. Non, non, ce n'est rien. Vous pouvez parler. C'est mon collègue qui va prendre son service. » Et comme les raisons que tous les gens avaient de passer ne diminuaient pas mon ennui qu'ils pussent m'entendre, sur mon ordre formel, il alla, non pas fermer la porte, ce qui était au-dessus des forces de ce cycliste qui désirait une moto, mais la pousser un peu plus. Comme ça, nous sommes bien tranquilles. Nous l'étions tellement qu'une Américaine entra et se retira en s'excusant de s'être trompée de chambre. « Vous allez me ramener cette jeune fille, lui dis-je, après avoir fait claquer moi-même la porte de toutes mes forces. » Ce qui amena un autre chasseur s'assurer qu'il n'y avait pas de fenêtre ouverte. « Vous vous rappelez bien, mademoiselle Albertine Simonet. Du reste, c'est sur l'enveloppe. Vous n'avez qu'à lui dire que cela vient de moi. Elle viendra très volontiers, » ajoutai-je pour l'encourager et ne pas trop m'humilier. « Vous pensez... » Mais non, au contraire, ce n'est pas du tout naturel qu'elle vienne volontiers. C'est très incommode de venir de Berneville, ici. Je comprends. Vous lui direz de venir avec vous. Oui, 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 je comprends très bien. Répondait-il de ce ton précis et fin, qui depuis longtemps avait cessé de me faire bonne impression, parce que je savais qu'il était presque mécanique et recouvrait, sous sa netteté apparente, beaucoup de vagues et de bêtises. « À quelle heure serez-vous revenu ?»« J'ai pas pour bien longtemps, » disait le lift, qui, poussant à l'extrême la règle édictée par Bélise d'éviter la récidive du « pas » avec le « ne », se contentait toujours d'une seule négative. « Je peux très bien y aller. Justement, les sorties ont été supprimées ce tantôt, parce qu'il y avait un salon de 20 couverts pour le déjeuner. Et c'était mon tour de sortir le tantôt. » C'est bien juste si je sors un peu ce soir. Je prends avec moi mon vélo. Comme cela, je ferai vite. » Et une heure après, il arrivait en me disant « Monsieur a bien attendu, mais cette demoiselle vient avec moi. Elle est en bas. » « Ah, merci. Le concierge ne sera pas fâché contre moi. » « Monsieur Paul, il sait seulement par où je suis été. Même le chef de la porte n'a rien à dire. » Mais une fois où je lui avais dit « Il faut absolument que vous la rameniez », il me dit en souriant « Vous savez que je ne l'ai pas trouvée, elle n'est pas là, et j'ai pas pu rester plus longtemps, j'avais peur d'être comme mon collègue qui a été envoyé de l'hôtel. » Car le lift qui disait « rentrer pour une profession où on entre pour la première fois », je voudrais bien rentrer dans les postes, pour compensation ou pour adoucir la chose s'il n'était agi de lui, ou l'insinuer plus doucereusement et perfidement s'il s'agissait d'un autre, supprimait l'air et disait « Je sais qu'il a été envoyé. » Ce n'était pas par méchanceté qu'il souriait, mais à cause de sa timidité. Il croyait diminuer l'importance de sa faute en la prenant en plaisanterie. De même, il m'avait dit « Vous savez que je ne l'ai pas trouvé. » Ce n'est pas qu'il crût qu'en effet je le susse déjà. Au contraire, il ne doutait pas que je l'ignorasse, et surtout, il s'en effrayait. Aussi disait-il « Vous le savez », pour s'éviter à lui-même les affres qu'il traverserait en prononçant les phrases destinées à me l'apprendre. On ne devrait jamais se mettre en colère contre ceux qui, pris en faute par nous, se mettent à ricaner. Ils le font non parce qu'ils se moquent, mais tremblent que nous puissions être mécontents. Témoignons une grande pitié. Montrons une grande douceur à ceux qui rient. Pareil à une véritable attaque, le trouble du lift avait amené chez lui non seulement une rougeur apoplectique, mais une altération du langage, devenu soudain familier. Il finit par m'expliquer qu'Albertine n'était pas à Aigreville, qu'elle devait revenir seulement à 9 heures, et que si des fois, ce qui voulait dire par hasard, elle rentrait plus tôt, on lui ferait la commission, et qu'elle serait en tout cas chez moi avant 1 heure du matin. Ce ne fut pas ce soir-là encore, d'ailleurs, que commença à prendre consistance ma cruelle méfiance. Non, pour le dire tout de suite, et bien que le fait ait eu lieu seulement quelques semaines après, elle naquit d'une remarque de Cottard. Albertine et ses amis avaient voulu ce jour-là m'entraîner au casino d'Incarville, et, pour ma chance, je ne les y eusse pas rejointes, voulant aller faire une visite à Madame Verdurin qui m'avait invitée plusieurs fois. Si je n'eusse été arrêtée à Incarville même par une panne de tram qui allait demander un certain temps de réparation. Marchant de long en large, en attendant qu'elle fût finie, je me trouvai tout à coup face à face avec le docteur Cottard, venu à Incarville en consultation. J'hésitai presque à lui dire bonjour, comme il m'avait répondu à aucune de mes lettres. Mais l'amabilité ne se manifeste pas chez tout le monde de la même façon. N'ayant pas été astreint par l'éducation aux mêmes règles fixes de savoir-vivre que les gens du monde, Cottard était plein de bonnes intentions qu'on ignorait, qu'on niait, jusqu'au jour où il avait l'occasion de les manifester. Il s'excusa, avait bien reçu mes lettres, avait signalé ma présence au Verdurin, qui avait grande envie de me voir, et chez qui il me conseillait d'aller. Il voulait même m'y emmener le soir même, car il allait reprendre le petit chemin de fer d'intérêt local pour y aller dîner. Comme j'hésitais, et qu'il avait encore un peu de temps pour son train, la panne devant être assez longue, je le fis entrer dans le petit casino, un de ceux qui m'avaient paru si triste le soir de ma première arrivée, maintenant plein du tumulte des jeunes filles, qui, faute de cavaliers, dansaient ensemble. André vint à moi en faisant des glissades. Je comptais repartir dans un instant avec Cottard chez les Verdurin, quand je refusai définitivement son offre, pris d'un désir trop vif de rester avec Albertine. C'est que je venais de l'entendre rire. Et ce rire évoquait aussi les roses carnations, les parois parfumées contre lesquelles il semblait qu'il vînt de se frotter, et dont, âcre, sensuel et révélateur comme une odeur de géranium, il semblait transporter avec lui quelques particules presque pondérables, irritantes et secrètes. Une des jeunes filles que je ne connaissais pas se mit au piano, et André demanda à Albertine de valser avec elle. Heureux, dans ce petit casino, de penser que j'allais rester avec ces jeunes filles, je fis remarquer à Cottard comme elles dansaient bien. Mais lui, du point de vue spécial du médecin, et avec une mauvaise éducation qui ne tenait pas compte de ce que je connaissais ces jeunes filles, à qui il avait pourtant dû me voir dire bonjour, me répondit « Oui, mais les parents sont bien imprudents qui laissent leurs filles prendre de pareilles habitudes. Je ne permettrai certainement pas aux miennes de venir ici. Sont-elles jolies au moins? Je ne distingue pas leurs traits. Tenez, regardez !» ajouta-t-il en me montrant Albertine et André qui valsaient lentement, serrées l'une contre l'autre. « J'ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent. Et voyez, les leurs se touchent complètement. » En effet, le contact n'avait pas cessé entre ceux d'André et ceux d'Albertine. Je ne sais si elles entendirent ou devinèrent la réflexion de Cottard, mais elles se détachèrent légèrement l'une de l'autre, tout en continuant à valser. André dit à ce moment un mot à Albertine, et celle-ci rit du même rire pénétrant et profond que j'avais entendu tout à l'heure. Mais le trouble qu'il m'apporta cette fois ne me fut plus que cruel. Albertine avait l'air d'y montrer, de faire constater à André quelques frémissements voluptueux et secrets. Il sonnait, comme les premiers ou les derniers accords d'une fête inconnue. Je repartis avec Cottard, distrait en causant avec lui, ne pensant que par instant à la scène que je venais de voir. Ce n'était pas que la conversation de Cottard fût intéressante. Elle était même en ce moment devenue aigre, car nous venions d'apercevoir le docteur du Boulbon, qui ne nous vit pas. Il était venu passer quelque temps de l'autre côté de la baie de Balbec, où on le consultait beaucoup. Or, quoique Cottard eût l'habitude de déclarer qu'il ne faisait pas de médecine en vacances, il avait espéré se faire, sur cette côte, une clientèle de choix, à quoi du Boulbon se trouvait maître obstacle. Certes, le médecin de Balbec ne pouvait gêner Cottard. C'était seulement un médecin très consciencieux, qui savait tout, et à qui on ne pouvait parler de la moindre démangeaison sans qu'il vous indiquât aussitôt, dans une formule complexe, la pommade, lotion ou liniment qui convenait. Comme disait Marie-Gineste dans son joli langage, il savait charmer les blessures et les plaies. Mais il n'avait pas d'illustration. Il avait bien causé un petit ennui à Cottard. Celui-ci, depuis qu'il voulait troquer sa chair contre celle de thérapeutique, s'était fait une spécialité des intoxications. Les intoxications, périlleuses innovations de la médecine, servaient à renouveler les étiquettes des pharmaciens, dont tout produit est déclaré nullement toxique, au rebours des drogues similaires, et même désintoxiquants. C'est la réclame à la mode. À peine s'il survit en bas, en lettres illisibles, comme une faible trace d'une mode précédente, l'assurance que le produit a été soigneusement antiseptisé. Les intoxications servent aussi à rassurer le malade, qui apprend avec joie que sa paralysie n'est qu'un malaise toxique. Or, un grand-duc étant venu passer quelques jours à Balbec et ayant un œil extrêmement enflé, avait fait venir Cottard, lequel, en échange de quelques billets de 100 francs, le professeur ne se dérangeait pas à moins, avait imputé comme cause à l'inflammation un état toxique et prescrit un régime désintoxicant. L'œil ne désenflant pas, le grand-duc se rabattit sur le médecin ordinaire de Balbec, lequel, en 5 minutes, retira un grain de poussière. Le lendemain, il n'y paraissait plus. Un rival plus dangereux, pourtant, était une célébrité des maladies nerveuses. C'était un homme rouge, jovial, à la fois parce que la fréquentation de la déchéance nerveuse ne l'empêchait pas d'être très bien portant, et aussi pour rassurer ses malades par le gros rire de son bonjour et de son au revoir, quitte à aider de ses bras d'athlète à leur passer plus tard la camisole de force. Néanmoins, dès qu'on causait avec lui dans le monde, fût-ce de politique ou de littérature, il vous écoutait avec une bienveillance attentive, d'un air de dire « De quoi s'agit-il ?» sans se prononcer tout de suite, comme s'il s'était agi d'une consultation. Mais enfin, celui-là, quelque talent qu'il eût, était un spécialiste. Aussi, toute la rage de Cottard était-elle reportée sur du Boulbon. Je quittai du reste, bientôt, pour rentrer, le professeur ami des Verdurin, en lui promettant d'aller les voir. Le mal que m'avaient fait ses paroles concernant Albertine et André était profond. Mais les pires souffrances n'en furent pas senties par moi immédiatement. Comme il arrive pour ces empoisonnements qui n'agissent qu'au bout d'un certain temps. Albertine, le soir où le lift était allé la chercher, ne vint pas, malgré les assurances de celui-ci. Certes, les charmes d'une personne sont une cause moins fréquente d'amour qu'une phrase du genre de celle-ci. « Non, ce soir, je ne serai pas libre. » On ne fait guère attention à cette phrase si on est avec des amis. On est gai toute la soirée, on ne s'occupe pas d'une certaine image. Pendant ce temps-là, elle baigne dans le mélange nécessaire. En rentrant, on trouve le cliché qui est développé et parfaitement net. On s'aperçoit que la vie n'est plus la vie qu'on aurait quittée pour un rien la veille. parce que si on continue à ne pas craindre la mort, on n'ose plus penser à la séparation. Du reste, à partir non d'une heure du matin, heure que le liftier avait fixée, mais de 3 heures, je n'eus plus, comme autrefois, la souffrance de sentir diminuer mes chances qu'elle apparût. La certitude qu'elle ne viendrait plus m'apporta un calme complet, une fraîcheur. Cette nuit était tout simplement une nuit comme tant d'autres où je ne la voyais pas. C'est de cette idée que je partais. Et dès lors, la pensée que je la verrais le lendemain ou d'autres jours, se détachant sur ce néant accepté, devenait douce. Quelquefois, dans ces soirées d'attente, l'angoisse est due à un médicament qu'on a pris. Faussement interprété par celui qui souffre, il croit être anxieux à cause de celle qui ne vient pas. L'amour naît dans ce cas, comme certaines maladies nerveuses, de l'explication inexacte d'un malaise pénible. Explication qu'il n'est pas utile de rectifier, du moins en ce qui concerne l'amour, sentiment qui, quelle qu'en soit la cause, est toujours erroné. Le lendemain, quand Albertine m'écrivit qu'elle venait seulement de rentrer à Aigreville, n'avait donc pas eu mon mot à temps, et viendrait, si je le permettais, me voir le soir. Derrière les mots de sa lettre, comme derrière ceux qu'elle m'avait dit une fois au téléphone, je crus sentir la présence de plaisir, d'être qu'elle m'avait préféré. Encore une fois, je fus agité tout entier par la curiosité douloureuse de savoir ce qu'elle avait pu faire, par l'amour latent qu'on porte toujours en soi. Je pus croire un moment qu'il allait m'arracher à Albertine, mais il se contenta de frémir sur place, et ses dernières rumeurs s'éteignirent, sans qu'il se fût mis en marche. J'avais mal compris, dans mon premier séjour à Balbec, et peut-être bien André avait fait comme moi, le caractère d'Albertine. J'avais cru que c'était frivolité, mais ne savais si toutes nos supplications ne réussiraient pas à la retenir et lui faire manquer une garden party, une promenade à Anne, un pique-nique. Dans mon second séjour à Balbec, je soupçonnais que cette frivolité n'était qu'une apparence, la garden party qu'un paravent, sinon une invention. Il se passait sous des formes diverses la chose suivante. J'entends la chose vue par moi, de mon côté du verre, qui n'était nullement transparent, et sans que je pusse savoir ce qu'il y avait de vrai de l'autre côté. Albertine me faisait les protestations de tendresse les plus passionnées. Elle regardait l'heure parce qu'elle devait aller faire une visite à une dame qui recevait, paraît-il, tous les jours à 5 heures, à Infreville. Tourmentée d'un soupçon, et me sentant d'ailleurs souffrant, je demandais à Albertine, je la suppliais de rester avec moi. C'était impossible. Et même elle n'avait plus que 5 minutes à rester, parce que cela fâcherait cette dame, peu hospitalière et susceptible, et, disait Albertine, assommante. Mais on peut bien manquer une visite. Non, ma tante m'a appris qu'il fallait être poli avant tout. Mais je vous ai vu si souvent être impoli. Là, ce n'est pas la même chose. Cette dame m'en voudrait et me ferait des histoires avec ma tante. Je ne suis déjà pas si bien que cela avec elle. Elle tient à ce que je sois allée une fois la voir. Mais puisqu'elle reçoit tous les jours... Là, Albertine, sentant qu'elle s'était coupée, modifiait la raison. Bien entendu, elle reçoit tous les jours, mais aujourd'hui j'ai donné rendez-vous chez elle à des amis, comme cela on s'ennuiera moins. Alors, Albertine, vous préférez la dame et vos amis à moi, puisque pour ne pas risquer de faire une visite un peu ennuyeuse, vous préférez de me laisser seule, malade et désolée. Cela me serait bien égal que la visite fût ennuyeuse, mais c'est par dévouement pour elle. Je les ramènerai dans ma carriole. Sans cela, elle n'aurait plus aucun moyen de transport. Je faisais remarquer à Albertine qu'il y avait des trains jusqu'à 10 heures du soir d'Infreville. C'est vrai, mais vous savez, il est possible qu'on nous demande de rester à dîner. Elle est très hospitalière. Eh bien, vous refuserez. Je fâcherai encore ma tante. Du reste, vous pouvez dîner et prendre le train de 10 heures. C'est un peu juste. Alors, je ne peux jamais aller dîner en ville et revenir par le train. Mais tenez, Albertine, nous allons faire une chose bien simple. Je sens que l'air me fera du bien. Puisque vous ne pouvez lâcher la dame, je vais vous accompagner jusqu'à Infreville. Ne craignez rien, je n'irai pas jusqu'à la tour Élisabeth, la villa de la dame. Je ne verrai ni la dame ni vos amis. Albertine avait l'air d'avoir reçu un coup terrible. Sa parole était entrecoupée. Elle dit que les bains de mer ne lui réussissaient pas. « Si ça vous ennuie que je vous accompagne. » « Mais comment pouvez-vous dire cela? Vous savez bien que mon plus grand plaisir est de sortir avec vous. » Un brusque revirement s'était opéré. « Puisque nous allons nous promener ensemble, » me dit-elle, « pourquoi n'irions-nous pas de l'autre côté de Balbec? Nous dînerions ensemble. Ce serait si gentil. Au fond, cette côte-là est bien plus jolie. Je commence à en avoir soupé d'Infreville et du reste, tous ces petits coins vers Épinard. Mais l'ami de votre tante sera fâché si vous n'allez pas la voir. Eh bien, elle se défâchera. Non, il ne faut pas fâcher les gens. Mais elle ne s'en apercevra même pas, elle reçoit tous les jours. Que j'y aille demain, après-demain, dans 8 jours, dans 15 jours, cela fera toujours l'affaire. Et vos amis? Oh, elles m'ont assez souvent plaqué, c'est bien mon tour. Mais du côté que vous me proposez, il n'y a pas de train après 9 heures. Eh bien, la belle affaire, 9 heures, c'est parfait. Et puis, il ne faut jamais se laisser arrêter par les questions du retour. On trouvera toujours une charrette, un vélo. À défaut, on a ses jambes. On trouve toujours, Albertine, comme vous y allez. Du côté d'Infreville, où les petites stations de bois sont collées les unes à côté des autres, oui. Mais du côté de... ce n'est pas la même chose. Même de ce côté-là, je vous promets de vous ramener sain et sauf. Je sentais qu'Albertine renonçait pour moi à quelque chose d'arrangé qu'elle ne voulait pas me dire, et qu'il y avait quelqu'un qui serait malheureux comme je l'étais. Voyant que ce qu'elle avait voulu n'était pas possible, puisque je voulais l'accompagner, elle renonçait franchement. Elle savait que ce n'était pas irrémédiable, car, comme toutes les femmes qui ont plusieurs choses dans leur existence, elle avait ce point d'appui qui ne faiblit jamais, le doute et la jalousie. Certes, elle ne cherchait pas à les exciter, au contraire. Mais les amoureux sont si soupçonneux qu'ils flairent tout de suite le mensonge. De sorte qu'Albertine n'était pas mieux qu'une autre, savait par expérience, sans deviner le moins du monde qu'elle le devait à la jalousie, qu'elle était toujours sûre de retrouver les gens qu'elle avait plaqués un soir. La personne inconnue qu'elle lâchait pour moi souffrirait, l'en aimerait davantage. Albertine ne savait pas que c'était pour cela. Et, pour ne pas continuer à souffrir, reviendrait de soi-même vers elle, comme j'aurais fait. Mais je ne voulais ni faire de la peine, ni me fatiguer, ni entrer dans la voie terrible des investigations, de la surveillance multiforme, innombrable. Non, Albertine, je ne veux pas gâter votre plaisir. Allez chez votre dame d'Infreville, ou enfin chez la personne dont elle est le porte-nom, cela m'est égal. La vraie raison pour laquelle je ne vais pas avec vous, c'est que vous ne le désirez pas, que la promenade que vous feriez avec moi n'est pas celle que vous vouliez faire. La preuve en est que vous vous êtes contredite plus de 5 fois sans vous en apercevoir. » La pauvre Albertine craignit que ces contradictions, qu'elle n'avait pas aperçues, eussent été plus graves. Ne sachant pas exactement les mensonges qu'elle avait faits, « C'est très possible que je me sois contredite. L'air de la mer m'ôte tout raisonnement. Je dis tout le temps les noms les uns pour les autres. » Et ce qui me prouva qu'elle n'aurait pas eu besoin maintenant de beaucoup de douces affirmations pour que je la crusse, je ressentis la souffrance d'une blessure en entendant cet aveu de ce que je n'avais que faiblement supposé. « Eh bien, c'est entendu, je pars !» dit-elle d'un ton tragique, non sans regarder l'heure afin de voir si elle n'était pas en retard pour l'autre. Maintenant que je lui fournissais le prétexte de ne pas passer la soirée avec moi. Vous êtes trop méchant. Je change tout pour passer une bonne soirée avec vous, et c'est vous qui ne voulez pas, et vous m'accusez de mensonge. Jamais je ne vous avais encore vu si cruel. La mer sera mon tombeau. Je ne vous reverrai jamais. Mon cœur battit à ces mots, bien que je fusse sûre qu'elle reviendrait le lendemain, ce qui arriva. Je me noierai. Je me jetterai à l'eau. Comme ça faut. Encore une insulte de plus. Vous n'avez pas seulement des doutes sur ce que je dis, mais sur ce que je fais. Mais, mon petit, je ne mettais aucune intention, je vous le jure. Vous savez que ça faut s'est précipité dans la mer. Si, si, vous n'avez aucune confiance en moi. Elle vit qu'il était moins vain à la pendule. Elle craignit de rater ce qu'elle avait à faire. Et, choisissant l'adieu le plus bref, dont elle s'excusa du reste en me venant voir le lendemain, probablement ce lendemain-là, l'autre personne n'était pas libre. Elle s'enfuit au pas de course en criant « Adieu pour jamais !» d'un air désolé. Et peut-être était-elle désolée, car sachant ce qu'elle faisait en ce moment mieux que moi, plus sévère et plus indulgente à la fois à elle-même que je n'étais pour elle, peut-être avait-elle tout de même un doute que je ne voudrais plus la revoir après la façon dont elle m'avait quittée. Or, je crois qu'elle tenait à moi, au point que l'autre personne était plus jalouse que moi-même. Quelques jours après, à Balbec, comme nous étions dans la salle de danse du casino, entrèrent la sœur et la cousine de Bloch, devenues l'une et l'autre fort jolies, mais que je ne saluais plus à cause de mes amis, parce que la plus jeune, la cousine, vivait, au-dessus de tout le monde, avec l'actrice dont elle avait fait la connaissance pendant mon premier séjour. André, sur une allusion qu'on fit à mi-voix à cela, me dit « Oh, là-dessus, je suis comme Albertine, il n'y a rien qui nous fasse horreur à toutes les deux comme cela. » Quant à Albertine, se mettant à causer avec moi sur le canapé où nous étions assis, elle avait tourné le dos aux deux jeunes filles de mauvais genre. Et pourtant, j'avais remarqué qu'avant ce mouvement, au moment où étaient apparues Mademoiselle Bloch et sa cousine, avait passé dans les yeux de mon amie cette attention brusque et profonde qui donnait parfois au visage de l'espiègle jeune fille un air sérieux, même grave. Et la laissait triste après. Mais Albertine avait aussitôt détourné vers moi ses regards, restés pourtant singulièrement immobiles et rêveurs. Mademoiselle Bloch et sa cousine, ayant fini par s'en aller après avoir ri très fort et poussé des cris peu convenables, je demandai à Albertine si la petite blonde, celle qui était l'amie de l'actrice, n'était pas la même qui, la veille, avait eu le prix dans la course pour les voitures de fleurs. « Ah, je ne sais pas, » dit Albertine. « Est-ce qu'il y en a une qui est blonde ? Je vous dirai qu'elle ne m'intéresse pas beaucoup, je ne les ai jamais regardées. Est-ce qu'il y en a une qui est blonde ? » demanda-t-elle d'un air interrogateur et détaché à ses trois amis. S'appliquant à des personnes qu'Albertine rencontrait tous les jours sur la digue, cette ignorance me parut bien excessive pour ne pas être feinte. « Elles n'ont pas l'air de nous regarder beaucoup non plus, » dis-je à Albertine. « Peut-être dans l'hypothèse, que je n'envisageais pourtant pas d'une façon consciente, où Albertine eût aimé les femmes, de lui ôter tout regret en lui montrant qu'elle n'avait pas attiré l'attention de celle-ci, et que d'une façon générale, il n'est pas d'usage, même pour les plus vicieuses, de se soucier des jeunes filles qu'elles ne connaissent pas. « Elles ne nous ont pas regardées ?» me répondit étourdiment Albertine. « Elles n'ont pas fait autre chose tout le temps. »« Mais vous ne pouvez pas le savoir, » lui dis-je, « vous leur tourniez le dos. »« Eh bien, et cela ?» me répondit-elle en me montrant, encastrée dans le mur en face de nous, une grande glace que je n'avais pas remarquée, et sur laquelle je comprenais maintenant que mon ami, tout en me parlant, n'avait pas cessé de fixer ses beaux yeux remplis de préoccupation. À partir du jour où Cottard fut entré avec moi dans le petit casino d'Incarville, sans partager l'opinion qu'il avait émise, Albertine ne me sembla plus la même. Sa vue me causait de la colère. Moi-même, j'avais changé, tout autant qu'elle me semblait autre. J'avais cessé de lui vouloir du bien. En sa présence, hors de sa présence quand cela pouvait lui être répété, je parlais d'elle de la façon la plus blessante. Il y avait des trêves, cependant. Un jour, j'apprenais qu'Albertine et André avaient accepté toutes deux une invitation chez Elstir. Ne doutant pas que ce fût en considération de ce qu'elle pourrait, pendant le retour, s'amuser, comme des pensionnaires, à contrefaire les jeunes filles qui ont mauvais genre, et y trouver un plaisir inavoué de vierge qui me serrait le cœur, sans m'annoncer, pour les gêner et priver Albertine du plaisir sur lequel elle comptait, j'arrivai à l'improviste chez Elstir. Mais je n'y trouvais qu'André. Albertine avait choisi un autre jour où sa tante devait y aller. Alors je me disais que Cottard avait dû se tromper. L'impression favorable que m'avait produite la présence d'André sans son ami se prolongeait et entretenait en moi des dispositions plus douces à l'égard d'Albertine. Mais elle ne durait pas plus longtemps que la fragile bonne santé de ces personnes délicates sujettes à des mieux passagers, et qu'un rien suffit à faire retomber malade. Albertine incitait André à des jeux qui, sans aller bien loin, n'étaient peut-être pas tout à fait innocents. Souffrant de ce soupçon, je finissais par l'éloigner. À peine j'en étais guérie qu'il renaissait sous une autre forme. Je venais de voir André, dans un de ces mouvements gracieux qui lui étaient particuliers, poser câlinement sa tête sur l'épaule d'Albertine, l'embrasser dans le cou en fermant à demi les yeux. Ou bien elles avaient échangé un coup d'œil. Une parole avait échappé à quelqu'un qui les avait vus seuls ensemble et allant se baigner. Petit rien, tel qu'il en flotte d'une façon habituelle dans l'atmosphère ambiante où la plupart des gens les absorbent toute la journée sans que leur santé en souffre ou que leur humeur s'en altère, mais qui sont morbides et générateurs de souffrances nouvelles pour un être prédisposé. Parfois même, sans que j'eusse revu Albertine, sans que personne m'eût parlé d'elle, je retrouvais dans ma mémoire une pose d'Albertine auprès de Gisèle, et qui m'avait paru innocente alors. Elle suffisait maintenant pour détruire le calme que j'avais pu retrouver. Je n'avais même plus besoin d'aller respirer au dehors des germes dangereux. Je m'étais, comme aurait dit Cottard, intoxiqué moi-même. Je pensais alors à tout ce que j'avais appris de l'amour de Swann pour Odette, de la façon dont Swann avait été joué toute sa vie. Au fond, si je veux y penser, l'hypothèse qui me fit peu à peu construire tout le caractère d'Albertine et interpréter douloureusement chaque moment d'une vie que je ne pouvais pas contrôler entière, ce fut le souvenir, l'idée fixe du caractère de Madame Swann, tel qu'on m'avait raconté qu'il était. Ces récits contribuèrent à faire que, dans l'avenir, mon imagination faisait le jeu de supposer qu'Albertine aurait pu, au lieu d'être une jeune fille bonne, avoir la même immoralité, la même faculté de tromperie qu'une ancienne grue, et je pensais à toutes les souffrances qui m'auraient attendu dans ce cas, si j'avais jamais dû l'aimer.